Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque jeudi, Antoine Garapon, ancien juge, s'empare des grands dossiers et des défis de la justice.
Avec Stéphanie Balm, politologue, spécialiste de la justice en Chine, mais pas sinologue. Bonsoir Stéphanie Balm.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous êtes sociologue du droit, vous venez de publier un ouvrage sur la Chine intitulé « Chine, les visages de la justice ordinaire, faits et droits » et donc qui porte sur le rapport au droit des Chinois, mais vous refusez d'être appelé sinologue. Pourquoi ça ?
Bon, refuser, pas exactement, mais disons
quand
que...
Quand vous n'aimez pas ce terme.
C'est un terme avec lequel, effectivement, je ne me sens pas complètement à l'aise, alors... Non pas que ce soit pas une belle tradition, tout au contraire, la tradition de sinologie qui est née en Europe il y a fort longtemps est une belle tradition et d'une certaine manière j'ai longtemps suivi les pas d'un sinologue puisque est sinologue quelqu'un qui parle la langue, qui a passé de longues années en Chine et qui travaille avec des collègues chinois et qui prétend à essayer de comprendre ce complexe, ce pays complexe. Donc tout ça, j'ai suivi ce parcours-là. En même temps, je pense que il faut, la Chine ayant changé, la représentation que l'on a de la Chine en Occident ayant changé également, la sinologie est sans doute une belle tradition, mais une tradition qui doit s'ouvrir. Et je suis pas sûre.
Qui particularise trop la Chine.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est d'enfermer la Chine, c'est-à-dire de ne pas la comparer avec la réalité du monde dans laquelle on vit. Et par ailleurs aussi, cette idée de tout expliquer par une culture supposément qu'on connaîtrait. En fait, ce regard culturaliste sur la Chine, effectivement, j'essaye de m'en détacher, puisqu'il est bien, bien compliqué aujourd'hui de définir ce qu'est la culture chinoise. Et par ailleurs, c'est largement une culture qui est hybride et qui a été occidentalisée, d'une part. Et d'autre part, il est bien, bien compliqué aussi de se dire sinologue, c'est-à-dire qu'on pourrait prétendre connaître absolument tous les sujets concernant la Chine. Or, voilà, il y a des problèmes politiques, économiques, sociaux, juridiques, et c'est cela qu'il faut comprendre. La Chine devient un cas, non pas un sujet.
C'est ça, mais Stéphanie Balm, vous parliez de changement de la Chine, il y a un grand motif de changement, un grand motif de rapprochement aussi. C'est le rôle qu'occupe le droit dans cet immense pays. Ce qui est singulier d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que c'est un régime autoritaire dans lequel la justice n'a pas tellement de place, mais c'est pas la réalité chinoise.
Alors, je crois que sur la définition du régime autoritaire, là, je pense qu'on peut pas le contester. La situation de la Chine contemporaine est évidente de ce point de vue-là. Mais la Chine, encore une fois, n'est pas le seul cas d'un État qui, tout en étant autoritaire, voire extrêmement autoritaire, a aussi une volonté de fonder un système judiciaire et en fait de construire son État, y compris son État-parti, en consolidant en fait une justice et en faisant aussi de la justice un élément de sa légitimité.
Alors, on va revenir sur la légitimité du régime, mais État-parti, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Certains disent que le Parti communiste a reconstitué en quelque sorte l'administration impériale, qu'il y a une continuité longue des institutions chinoises et que la justice n'échapperait pas d'ailleurs à la règle et que le parti viendrait en quelque sorte chausser les pieds de l'empereur et des mandarins.
Oui, cette lecture qui consiste à dire qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a une continuité historique entre le modèle impérial et le modèle maoïste, en fait, de pouvoir de la Chine d'aujourd'hui. C'est une thèse qui est intéressante. Elle est intéressante parce que on constate d'une part qu'effectivement, il n'y a jamais eu dans l'histoire de la Chine, sous la forme d'un état-civilisation et aujourd'hui d'un état-nation, une structure politique dans laquelle il y a un multipartisme.
Ça n'a jamais existé.
Ça n'a jamais existé, c'est-à-dire qu'il y a existé de très nombreux partis politiques, en particulier sous la période du Kuomintang, et la Chine aujourd'hui dispose aussi constitutionnellement d'autres partis politiques, de 8 petits partis politiques, mais il n'y a pas eu d'alternance politique entre deux partis qui s'opposaient dans le cadre d'un État-nation constitué. Donc ça n'a jamais existé. Donc effectivement, on peut voir une continuité historique, sans pour autant que cette continuité historique, on puisse l'expliquer par une culture corps politique donné qui empêcherait de changer complètement de situation. En même temps, c'est, en
pas
Chine,
de culturalisme.
Pas de culture. Oui, non, pas de culturalisme, puisque aujourd'hui cette opposition à une forme de ce qui pourrait être le multipartisme politique se fait au nom du socialisme, au nom du communisme et du marxisme-léninisme, qui n'est pas une pensée chinoise. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre.
Sous influence soviétique, quand même, historiquement, le maoïsme a beaucoup...
Stalinienne, tout à fait, soviétique, stalinienne et pré-période Khrouchtchev, c'est-à-dire que ne jamais oublier que la rupture sino-soviétique date d'un moment où, en Union soviétique, on essayait de se démarquer d'une logique stalinienne du pouvoir. Donc c'est non seulement elle est soviétique, mais elle est soviétique pré-khrouchtchevienne.
Mais alors, que vient
je veux, oui. Je veux simplement aussi compléter en disant que cette lecture qui consisterait à penser qu'il y a une continuité historique très forte, eh bien, elle est juste et pas juste. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est juste dans le sens où 1949 est vue par les historiens comme étant un moment qui signifie moins une rupture qu'on ne le pense. Et là où elle n'est pas juste non plus, c'est
c'est-à-dire moins une rupture qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de continuité nationaliste de
c'est-à-dire
la Chine.
C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a 49 est la continuité de 1911, qui est le moment de l'établissement de la République. Et que par ailleurs, il y a une volonté en Chine, une volonté politique qui consiste à masquer ce moment qu'on a pu appeler le mouvement des Lumières chinoises, qui date des années 20, et qui en fait, qui permet en fait d'établir un saut historique entre simplement la fin de l'Empire, l'établissement de la République, et puis ce modèle maoïste de pouvoir qu'on connaît aujourd'hui, en gommant l'expérience des 30 années du régime Kuomintang, du régime nationaliste, qui maintenant vit à Taïwan. Et pendant ces années qui ont été des années marquées par et des guerres civiles et des guerres avec le Japon, mais elles ont été aussi marquées par des tentatives de modernisation profonde du système juridique, politique, social de l'État chinois.
Alors revenons, Stéphanie Balm, sur la question de la légitimité. Parce que ce qui est paradoxal, quoi, ce que on ne comprend pas, ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est comment la Chine peut se prétendre un État socialiste et en même temps avoir ce degré d'implication dans la mondialisation économique et dans le capitalisme et de se réclamer de l'État de droit. Une expression comme un État de droit socialiste, c'est un non-sens, c'est même une contradiction dans les termes. Et cela ne semble pas l'être pour les Chinois.
Si, ça l'est tout à fait. Bien sûr que si, ça l'est tout à fait. Parce qu'ils sont, quand on réfléchit deux minutes, ces termes-là, ces expressions, que ce soit celle d'État de droit socialiste dont vous venez de parler, ou bien d'économie socialiste de marché,
qui sont
deux termes qui sont totalement, enfin deux slogans que l'on retrouve dans la constitution chinoise et qui sont pour tout un chacun totalement contradictoires, sont perçus en Chine évidemment comme des slogans intelligents parce qu'en fait ils permettent de s'adapter à la réalité, ils permettent finalement la continuité d'un régime politique qui s'adapte aux réalités nouvelles. Alors, est-ce que donc c'est perçu de façon contradictoire ici et là-bas sans qu'il y ait de là-dessus, ça me semble évident. Alors ensuite, comment on peut le résoudre? Eh bien, on peut le résoudre parce que effectivement l'essentiel reste pour le Parti communiste au quotidien de s'assurer de sa survie du jour au lendemain et de la survie de l'État-nation. Et donc l'idée, c'est de produire de la richesse, de produire ce qu'on appelle une forme de bien-être, le bien-être de la société, des citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, de gagner cette légitimité, à la fois pour des raisons de survie politique et aussi parce que cela permet alors de passer par une étape qui a été celle de l'histoire de l'Europe depuis le 19e siècle, c'est-à-dire de passer par le suffrage universel ou les élections.
C'est ça. Vous pensez que c'est un horizon possible, un horizon espéré, les élections, légitimité ?
Non. La légitimité par les élections, ça a pu être un horizon espéré par certaines franges de la population à un moment extraordinairement précis de l'histoire de Chine, l'histoire contemporaine de Chine. Donc je veux penser au lendemain de la Première République, en 1911, avec la série d'élections qui ont eu lieu jusqu'au milieu des années 10, et puis ensuite à l'issue de la révolution culturelle chez les manifestants des différents mouvements qui ont eu lieu, et les plus connus en Occident sont ceux de 86 et surtout de 89. Mais depuis, effectivement, à part une velléité de d'élection locale au niveau des villages et qui est une obligation constitutionnelle en réalité depuis 1986 et qui a connu son heure de gloire dans les années 90, ces idées d'élection sont considérées comme des véritables repoussoirs. Pour plusieurs raisons qui sont à la fois un vrai débat interne. D'abord, la société chinoise post-révolution culturelle et post-1989 n'est plus du tout la même. C'est une société de classe moyenne qui cohabite avec des migrants, donc une société mobile, qui cohabite elle-même avec d'énormes tensions au sein de la société, de gens qui se sentent non représentés. Et donc un débat, un débat très vif au sein de la société, enfin un débat très vif tant que le débat soit officiel évidemment, mais disons des tensions,
une forme de
tension très vive sur ce qu'il faudrait faire. Et par exemple, caractéristique de ce débat, certains disant si des élections étaient organisées en Chine, elles seraient forcément elle s'opérerait sous le signe de la corruption compte tenu le niveau de corruption de la société chinoise et donc finalement ce serait de fausses élections démocratiques. D'autres indiquant que précisément établir des élections serait une façon de lutter contre la démocratie. Donc ce genre de débat-là. Mais il y a aussi à la tête du pouvoir effectivement à la fois une renonciation et puis une volonté d'obtenir cette forme de légitimité démocratique autrement que par les élections, au nom aussi d'une décadence du modèle démocratique en Occident.
Alors, décadence du modèle démocratique, il y a un paradoxe, on va revenir sur cette décadence, mais il y a quand même un paradoxe que je voudrais souligner, c'est que c'est au moment où les classes moyennes souffrent tellement à l'Ouest, à cause de la mondialisation, et qu'on a tous peur, tous nos pays ont peur finalement de les voir fondre au bénéfice d'une montée des inégalités, on a l'impression que la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, constitue la quille des démocraties sous la forme d'une grande classe moyenne, une grande classe moyenne notamment côtière, et qui assure la stabilité du régime à long terme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture ?
Disons que c'est l'objectif du pouvoir politique de s'appuyer sur une classe moyenne qui serait une classe moyenne qui serait conservatrice à la fois sociale et politiquement, sociale pour préserver ses acquis notamment matériels, et puis aussi qui serait conservatrice socialement pour assurer à la prochaine génération, donc la prochaine génération qui, elle, sera née complètement en classe moyenne en réalité, de maintenir cet état d'esprit. C'est sans doute l'objectif. Alors, en réalité, quand on regarde par exemple la situation à Hong Kong, la situation récente à Hong Kong avec les élections qui ont eu lieu en septembre, même si le contexte est différent évidemment de la Chine continentale, il y a quand même des points communs, notamment le fait qu'une classe moyenne, éduquée, urbaine, etc., n'est pas forcément systématiquement aussi conservatrice et qu'elle serait justement pas. Elle est beaucoup plus divisée qu'on ne le pense en réalité.
Vous parlez de détestation de la démocratie. C'est quand même paradoxal parce qu'on a l'impression que la Chine s'américanise beaucoup dans ses mœurs, dans sa consommation de masse, dans finalement l'attraction du consumérisme américain. Et même du bien-être, parce que c'est le welfare state, dans le fond, qui s'installe. Et donc, un semblant d'américanisation de la société chinoise, en même temps, une détestation, le mot est fort quand même, Stéphanie Balm, de l'Occident et de la démocratie.
Non, mais détestation de l'Occident, les choses sont beaucoup plus complexes
tentez de nous expliquer. Alors,
beaucoup plus complexes que ça. Détestation, c'est d'abord, il y a un discours qui est officiel, un discours de propagande, si vous voulez, qui effectivement tente d'opposer Chine et Occident. Et en même temps, sur la plupart des grands sujets de ce monde, la Chine est de fait impliquée, si je pense à la question de l'environnement, à la question du développement en Afrique.
L'environnement, c'est très important pour les Chinois.
C'est devenu crucial, c'est devenu considérablement important, et ils en viennent évidemment pas pour des raisons idéologiques, mais simplement par pure survie, nécessité de survie individuelle. Donc la Chine est dans le monde, la Chine est la globalisation d'une certaine manière aujourd'hui. Nous sommes à une période où la totalité des investissements chinois dans le monde dépasse la totalité des investissements étrangers en Chine. C'est un moment historique.
De bascule
totale. Oui. Donc les 20 premières années du développement de l'ouverture de la Chine post-révolution culturelle se sont faites par l'arrivée massive de capitaux occidentaux, étrangers, qui ont massivement occidentalisé certaines franges de la société chinoise, de façon profonde ou de façon purement, j'allais dire, artificielle par la transformation des villes en particulier. Mais aujourd'hui, on arrive à un autre phénomène, qui est un phénomène effectivement
de réappropriation.
De réappropriation, et puis aussi où la Chine est active dans ce processus, où là, pour le coup, elle investit dans le monde entier, en fermant ses marchés, au nom justement d'une protection, d'une forme de logique de protectionnisme nécessaire. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué. Et par ailleurs, les jeunes urbains qui peuvent être chauvins, parfois xénophobes, sont souvent aussi les premiers à demander des visas pour aller faire leurs études aux États-Unis. Les étudiants chinois à l'étranger représentent la première population à l'étranger dans le monde.
C'est ça. Mais alors, ils vont étudier à l'étranger, on en connaît dans nos universités, il y en a aussi beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'ils voient bien comment les bienfaits d'une vie en démocratie et aussi d'ailleurs les questions, les aspects plus négatifs. Et on a l'impression que quand ils rentrent en Chine, ils sont pas convaincus par la vie aux États-Unis, par la vie américaine. Ils sont pas convaincus par la vie démocratique.
C'est deux choses différentes. L'American Dream, le rêve américain et la démocratie américaine, il me semble que il n'y a pas uniquement les jeunes Chinois qui ont un rapport conflictuel par rapport à cette notion. Il me semble qu'en réalité, là encore une fois, si on parlait d'ethnologie tout à l'heure, simplement la Chine révèle nos propres contradictions, nos faiblesses, nos forces, mais aussi notre rapport contrasté aux logiques du monde d'aujourd'hui. Et un jeune Chinois chez nous peut parfaitement apprécier d'aller librement au théâtre ou au cinéma et considérer que notre système politique est largement problématique et voir monter, par exemple, la montée du Front National, les regards des jeunes Chinois sur la montée du Front National en France aujourd'hui, qui les préoccupent considérablement, notamment parce qu'ils peuvent être aussi victimes d'une forme de racisme ambiant. Donc c'est notre capacité à produire du rêve, à produire aussi un modèle qui soit un modèle qui pourrait être à la fois plus efficace, puisque semble-t-il dans cette génération, l'efficacité, le bien maternel est une vertu qui signifie stabilité. Donc si on rajoute effectivement cette capacité, cette difficulté qu'on a à produire la continuité du rêve démocratique, plus les questions de terrorisme actuellement, on peut comprendre effectivement cette difficulté qu'ils ont à considérer que nous sommes le modèle pour demain. Je légitime pas, mais
bien
on
sûr.
Peut comprendre.
Mais alors Stéphanie Balm, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas d'opposition en Chine et pourtant les mouvements qu'on a vus, en dehors des mouvements spontanés, qui sont assez nombreux, dont on ne parle pas, mais qui existent, des mouvements de révolte, ce sont les avocats et les juristes précisément qui occupent cette place de l'opposition. On a vu la répression qui a affecté par exemple un avocat, l'avocat de Ai Weiwei, qui était très connu en Chine, maître Pu Zhejiang, vous me passerez la prononciation. Est-ce qu'on se trompe si on dit qu'une partie de la démocratisation de la Chine se passe dans les tribunaux, ou ne se passe pas dans les tribunaux, mais on choisit le droit pour poser un certain nombre de problèmes?
Alors, deux aspects très différents. La démocratie politique, d'une part. Alors là, la question de la démocratisation politique. Donc, est-ce qu'il y a une opposition, finalement, votre question, c'est est-ce qu'il y a une opposition au Parti communiste chinois aujourd'hui, d'une part, et d'autre, comme elle est impossible, est-ce qu'elle se fait différemment? Et est-ce qu'elle a un visage, en fait, qui est celui de l'opinion publique dans les tribunaux? Premièrement, l'opposition politique en Chine, elle existe. D'abord, le Parti communiste est extraordinairement divisé. On ne peut pas imaginer que 85 millions de membres du Parti communiste chinois pensent tous la même chose. Les tensions sont particulièrement vives en ce moment depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel qui mène une lutte contre la corruption qui touche les intérêts directs de nombreuses factions au sein du parti. Tout ceci très rapidement dit pour dire qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas d'opposition. Ensuite, par rapport au deuxième point qui est vraiment les oppositions au sein de la société, je dirais à la fois ce sont des oppositions très quotidiennes qui prennent des visages très différents. Il peut y avoir des manifestations dans des villages de très grande ampleur, médiatisées ou non. La dernière en date est celle du village de Oukraine à Canton. Là, il s'agit de gens qui essayent d'établir des élections au niveau local pour pouvoir élire un comité de villageois et faire partir les cadres corrompus.
Les caciques, oui.
L'opposition à ce mouvement est très forte, puisque le chef de la province a fait venir l'armée, etc., et que finalement, ça se termine par des sentences très lourdes.
Ça se termine toujours
mal. Ça se termine toujours très mal, des jugements très lourds de peine de prison pour les meneurs de ce mouvement. Mais... Ensuite, sans qu'il y ait cette dimension qui est là pour le coup extrêmement forte, parce que dans un contexte chinois, c'est effectivement l'aboutissement de médiations qui n'ont pas réussi et qui est potentiellement très grave en termes de droits humains. Au quotidien, les préoccupations sont plus d'ordre. Quand le système va-t-il changer? Comment le système peut-il changer? Et quand même le sentiment très fort chez les gens de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils souhaiteraient exprimer au quotidien, et donc d'être brimés également dans leur potentiel de créativité, dans leur capacité à pouvoir très simplement débattre de sujets qui sont les sujets de société.
Stéphane Ebal, il y a quand même une nouveauté, c'est le Weibo, c'est le net. Il y a un internet en Chine, chinois d'ailleurs, contrôlé j'imagine, mais c'est quand même un instrument d'expression, de circulation des idées, d'expression d'un mécontentement, d'indignation. On le voit d'ailleurs sur des matières judiciaires. Souvent pour des procès.
Oui, et je pense que nos auditeurs doivent forcément avoir entendu parler de ces expressions, de ces opinions publiques sur Internet qui existent et qui sont vives, souvent drôles, extrêmement virulente également, qui montre bien qu'il n'y a aucune passivité de l'opinion publique chinoise. Il n'y a pas de société civile dans le sens où elle n'est pas institutionnalisée, elle n'est pas constituée. Elle ne peut pas l'être. Juridiquement, elle ne peut pas l'être. En revanche, il n'y a pas d'apathie de l'opinion publique parce que les problèmes sont dantesques. Les problèmes sont considérables. On parlait de la justice il y a un moment. L'idée précisément d'établir une justice qui soit efficace, c'est de s'assurer qu'elle peut alors, cette justice, canaliser ses oppositions au sein de la société, que le juge, contrôlé à la fois par l'opinion et par le pouvoir au-dessus de lui, est en mesure de dire le droit et de décider de telle sorte à ce que son jugement soit accepté par la population, qu'il ne fasse pas d'ombre au pouvoir politique,
et en même temps
que les tribunaux ne deviennent pas la caisse de résonance des problèmes de la société. Alors combien de temps ça va pouvoir être possible? Difficile. Précisément aussi parce que les juges et les tribunaux utilisent le Weibo.
Sur nos auditeurs, vous êtes bien sur France Culture dans les discussions du soir et on écoutait une musique que vous avez choisie, Stéphanie Balm, musique qui est une chanson des juges chinois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils disent exactement, qu'est-ce qu'ils chantent? En France, dans notre état de droit, jusque présent, les juges ne chantent pas, heureusement peut-être.
Quel dommage. Quel dommage. Alors oui, effectivement, c'est une vieille tradition. Antoine Garapon, c'est une vieille tradition, le chant en Chine. Et donc toutes les communautés chantent, et dans les unités de travail, on chante énormément. Et les tribunaux sont les héritières des unités de travail de la période maoïste. Donc cette chanson, elle est formidablement intéressante. Elle a un côté évidemment extrêmement naïf. Et puis elle dit l'essentiel. Elle dit que les juges sont travaillent pour la République populaire, que leur objectif c'est la justice, que ils vont tout faire pour que chaque citoyen chinois de la base, du fin fond des campagnes jusque dans les villes, obtienne justice, et qu'ils sont à l'écoute, etc., etc., et que en fait ils sont tout ceci participe, cette volonté de justice et d'être près du justiciable participe à la construction de la grande nation chinoise.
Mais alors, est-ce que le peuple y croit? Est-ce que l'opinion chinoise a saisi l'hameçon? Est-ce qu'elle porte ses conflits devant les juges? Est-ce que, véritablement, la justice remplit ce que vous disiez dans un article il y a déjà maintenant quelques années, où vous disiez c'est un peu l'articulation, ce qui vient amortir cette modernisation très rapide et par certains côtés inhumaine, ce qui vient amortir ce manque de liberté et ce qui permet un petit peu de donner une chambre d'écho aux attentes, aux revendications de justice de l'opinion publique chinoise. Stéphanie Balm.
Alors d'abord, je pense que... Merci beaucoup Antoine Garapon pour votre question. D'abord, il faut quand même bien dire que dans le livre là, que je publie, de façon générale, notre discussion porte sur ce que j'appelle la justice de tous les jours, la justice ordinaire.
Mais c'est ce qui est intéressante.
Elle est aussi intéressante et aussi importante que la justice des grandes affaires. Par grandes affaires, oui. Tout le monde doit se rappeler le procès de la Bande des Quatre, beaucoup plus récemment le procès Bo Xilai, et évidemment le procès des grands dissidents chinois. Parce que
Des procès politiques.
Qui sont des procès politiques, qui sont des procès exceptionnels, et qui sont exceptionnels aussi dans le sens où une justice d'exception s'applique à ces cas-là. Et il est parfaitement légitime de regarder, il faut regarder ces sujets-là, ces cas, ces
On
affaires.
On est dans la tradition stalinienne là quand même.
Oui, absolument, absolument, oui. Oui, absolument, ou et impérial, puis les deux couches, oui. Les deux couches y sont. Mais la justice quotidienne aussi, il faut la regarder, et ensuite il faut faire le lien entre les deux. Parce qu'évidemment, il y a un lien. Parce que plus la justice est une justice d'exception, et moins la justice ordinaire peut finalement, malgré le fait qu'il y ait des lois, des cours, etc., peut suivre son cours normalement. Et être crédible, absolument. Donc pour répondre très brièvement à votre question qui est extrêmement compliquée, la justice chinoise d'aujourd'hui, elle s'est métamorphosée. L'humilité d'en parler dans le livre, puisque c'est le fruit de longues recherches et que j'ai eu la chance d'accéder aux tribunaux pendant plusieurs années, aux tribunaux chinois pendant de nombreuses années. Elle s'est métamorphosée matériellement, physiquement, c'est absolument incontestable et c'est documenté.
Parce que les tribunaux sont très riches, il y a plein de technologies dans les tribunaux
chinois
aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, dans les provinces riches ont une justice riche, les provinces pauvres une justice un peu plus pauvre, mais quand même dans les juridictions et les provinces pauvres, il est vrai que les nouveaux bâtiments, l'informatisation, le nombre de personnel en fait qui travaille dans les cours donnent tous les signes d'une justice qui a tout ce dont elle dispose, matériellement parlant, pour rendre justice. Et c'est vrai que, très simplement, en faisant une comparaison avec la situation en Europe, si on compare, par exemple, la situation matérielle, en fait, du budget de la justice des pays européens, il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à faire cette recherche, j'allais dans les juridictions françaises, allemandes, anglaises, etc., et je voyais la comparaison avec la Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, il n'y avait pas assez d'ordinateurs, et c'était
Chinois.
Très défavorable, et maintenant, la situation s'est radicalement inversée. Je n'ai pas peur de le dire, elle s'est radicalement inversée.
C'est que les tribunaux chinois sont plus modernes, mieux dotés, plus de personnel que les tribunaux de nos pays.
Ils sont flambant neufs. Alors quand je dis ils sont flambant neufs, je donne plusieurs exemples. Par exemple, si vous allez au tribunal de Nankin aujourd'hui, le tribunal supérieur de Nankin, il est incontestable qu'il ressemble très certainement à ce que les cours américaines devaient ressembler lorsqu'elles venaient juste d'être construites. Donc, technologie high-tech, aucun problème de passage à l'informatique, et également aussi, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est pas uniquement simplement qu'on peut à la fois poser des caméras pendant les audiences, qu'on peut également disposer d'ordinateurs, et que l'accès à la justice est totalement informatisé, c'est-à-dire que dans les régions côtières en Chine, vous pouvez entrer votre cas, c'est-à-dire démarrer une assignation
par Internet
de façon aussi facile que vous faites vos courses en ligne.
Et c'est possible,
donc,
et ça marche.
Et ça marche d'autant plus que, et c'est le deuxième aspect, non seulement cet aspect matériel est important, mais il est aussi, il est accompagné d'une philosophie qui est une philosophie qu'on discute considérablement en Europe et en Occident, et on a bien raison d'en parler, puisqu'en fait, il s'agit d'intégrer des techniques de management des affaires judiciaires qui sont en fait calquées sur un modèle libéral américain qui consiste à dire une justice bien rendue est une justice efficace, donc rendue très rapidement. Alors,
oui,
il est vrai qu'ils ont...
Oui, mais Stéphanie Val, il y a un problème.
Il y a un énorme problème.
C'est que cette justice luxuriante, flambant neuve, avec des ordinateurs, des juges qui sont de mieux en mieux formés d'ailleurs, hein, c'est ce que vous dites.
Bien sûr.
Et en même temps, on n'est pas dans un pays démocratique. Il n'y a pas de constitution qui joue véritablement le rôle d'une justice constitutionnelle. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas même, on ne peut même pas imaginer que les juridictions s'opposent d'une manière ou d'une autre au parti. Alors comment est-ce qu'on peut combiner ces deux dimensions de la justice chinoise, qui sont d'ailleurs très révélatrices de la tension même qui traverse la société chinoise?
Absolument. C'est-à-dire que regarder comment la justice fonctionne, c'est regarder comment c'est un miroir de l'ensemble de la
société. Bien sûr,
c'est
pas société. Nouveau, c'est vrai de pratiquement tous les pays d'ailleurs.
Ah, mais c'est vrai de tous les pays. Oui. Et c'est vrai de tous les pays. Et c'est vrai que jusqu'à présent, peu de gens se sont intéressés à cette justice, qui est probablement le plus grand système judiciaire du monde. À la fois parce que c'était pas une priorité de la part du pouvoir politique chinois, et ensuite parce qu'on ne disposait pas de données ni d'un accès facile. Il y a tout un courant de recherche en Chine, en particulier aux États-Unis, sur la justice chinoise. Aussi parce qu'elle fait appel à beaucoup de coopération. Et donc, tout le type de coopération qu'on peut engager avec la Chine, il est quand même important de savoir ce qu'on fait et sur quoi ça débouche.
Oui, et puis en plus, on parlera de la peine de mort dans un instant, ce qui est aussi un autre problème.
Et sur quoi ça débouche, exactement. Alors, je pense, mettons de côté la question de la démocratie. Si on entend démocratie par compétition politique et démocratie électorale, là, effectivement, on pourrait... Et c'est le pari, il n'y a rien à voir,
ouais.
Et c'est le pari aussi du gouvernement chinois d'établir une justice moderne sans démocratie politique. En revanche, la question, la problématique de l'état de droit est très différente. C'est-à-dire que, autant il y a une opposition à la démocratie électorale, autant l'idéologie du Parti communiste chinois, c'est, a décidé assez tôt que cette idée d'état de droit, sans doute synonyme pour eux au départ de gouvernance ou de stabilité ou finalement de sécurité juridique, c'était quelque chose qu'il fallait faire. C'est-à-dire l'idée, c'est d'établir un état de droit sans démocratie électorale. Alors, beaucoup de gens ont dit, et beaucoup de juristes en Chine, très bien, mais il y a quand même une étape importante qui s'appelle la justice constitutionnelle. Et on pourrait avoir une justice constitutionnelle sans, encore une fois, avoir des élections. D'où l'idée de mettre la notion d'état de droit dans la Constitution. Mais là, effectivement, ça c'est quand même, c'est ça qu'il faut quand même noter, c'est que cette justice flambant neuve au quotidien, qui permet aux justiciables chinois de voir qu'effectivement leur dossier de
avance, qu'il
divorce,
etc.
Et voilà, et que le niveau de corruption a tendance à baisser et qu'on peut l'évaluer. Quand on touche à des questions qui sont le droit administratif, qui sont effectivement
le rapport à l'État,
c'est-à-dire inverser la logique de domination symbolique ou réelle. Oui. Ou bien la justice constitutionnelle qui consiste à garantir des droits fondamentaux et garantir la hiérarchie des normes.
Ça, c'est pas possible.
Eh bien, il y a eu des tentatives extraordinairement palpitantes et qui ont laissé beaucoup d'espoir et d'amertume du fait au début des années 2000, c'est-à-dire au début de ce siècle, et qui maintenant ont sombré dans un oubli total. La justice constitutionnelle est en état de chômage technique, pour utiliser un terme...
C'est très intéressant ce que vous dites, Stéphanie Balm, parce que dans le fond, c'est un véritable défi qui est lancé à la Chine, mais pas uniquement, à beaucoup d'autres pays aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dissocier l'état de droit, disons une certaine prévisibilité des rapports sociaux grâce au droit et grâce aux tribunaux, de la démocratie? On arrive à ce paradoxe que vous soulignez dans votre travail, que la Chine s'oppose de plus en plus comme un état post-démocratique, mais qui n'a jamais connu la démocratie. Un état extrêmement moderne, plus moderne par certains côtés que certaines vieilles démocraties, mieux équipées, qui communiquent mieux, avec plus de technologies, mais qui a enjambé ce stade de la démocratie. Et ça, c'est plus qu'une interrogation, c'est un véritable programme politique et une sorte de leadership que voudrait exercer la Chine aujourd'hui, Stéphanie Balm.
Antoine Garapon, c'est très juste ce que vous dites, dans le sens où c'est effectivement, on pourrait penser que le projet d'ensemble, c'est de définir la modernité comme une non-démocratie. Ou le non-passage à la démocratie, c'est précisément ce qui serait la nouvelle définition de la modernité politique.
Au nom de l'efficacité, par exemple.
Au nom de l'efficacité, au nom de la stabilité, au nom de la lutte contre la pauvreté, la sécurité, exactement. Tous ces termes dont on aurait a priori beaucoup besoin dans les temps difficiles que l'on vit. Je pense évidemment à la question de l'insécurité liée au terrorisme. Tout ça, effectivement, ça fait partie du rêve chinois. Si on parlait du rêve américain.
Et un rêve chinois, que la Chine pourrait exporter ailleurs que de la Chine, à l'extérieur de la Chine.
Alors, le rêve chinois, qui est effectivement le slogan du dirigeant actuel, M. Xi Jinping, cette idée de rêve chinois. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Alors, l'idée, jusqu'à l'exporter, je ne sais pas. D'abord, il faudrait convaincre en interne. Ce qui est très intéressant dans ce rêve chinois, c'est qu'à la fois, d'abord, il n'est pas nouveau, c'est un vieux slogan qui date du début du XXe siècle, et beaucoup d'auteurs, au moment de la fin du système impérial, étaient dans cette logique d'un rêve chinois. Le rêve chinois, c'est le rêve de la régénérescence. C'est le rêve, en fait, de la renaissance, d'une renaissance de la grande culture, pas tellement chinoise, mais Han, c'est-à-dire de l'ethnie majoritaire Han, qui est une forme de revanche contre tous ces moments où, effectivement, elle a dû lutter contre l'invasion de cultures non civilisées, aux Tibétains, aux Mandchous, etc. Oui. etc. Bon. Donc, il y a cette idée-là. Donc, là, un rêve chinois aujourd'hui...
Non seulement nationaliste, mais un peu raciste, quoi, comment dirais-je.
Disons très ancré dans ce qui fait, plus exactement, ancré dans une tradition impériale, puisque la tradition impériale est d'origine Han. Donc c'est ça qui est très important. Donc un État centralisé extrêmement fort, donc l'idée d'un mandat du ciel, donc l'idée d'une forme, une forme de philosophie qui est extraordinairement autoritaire, mais qui s'incarne dans une longue tradition. Donc ce rêve chinois aujourd'hui, il a des tonalités environnementales. Il est dans l'idée que la Chine non seulement a compris qu'il y avait un problème de crise environnementale, mais qu'elle pouvait aussi faire comprendre le monde et être partie prenante en fait de solutions par l'innovation. Donc une forme de régénérescence par ça. Donc la question de l'environnement est très importante. De là à exporter le rêve chinois, dans les textes et officiellement ce n'est pas le cas, de fait ça l'est.
Alors, vous allez nous expliquer comment, Stéphanie Ball, mais moi, c'est une véritable interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être une grande puissance sans avoir un projet pour le monde. Ça a été la force de l'Occident. Et aujourd'hui, dans la communauté internationale, ce qu'on appelle telle, on voit bien que les Occidentaux, malgré leur déclin, ont encore une pensée du monde, une pensée sur le monde, un projet pour le monde, qui est celui, en gros, de la liberté, de l'ouverture, des droits de l'homme, du droit, du respect d'un minimum de principes d'humanité. Et on attend, plus la Chine occupe cette place de leader mondial, et elle va cesser d'avancer dans cette direction, eh bien, on attend de savoir quel sera son message pour le monde. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Quel est son projet pour le monde, si tant est qu'elle en est un ?
Le projet, a priori, de la Chine aujourd'hui, c'est un projet pour elle et pour ses citoyens. Et ne jamais oublier qu'ils sont quand même très nombreux. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une pensée pour un continent, en réalité, qui est un continent
très autocentré.
Très autocentré, mais cet autocentrement qui n'est pas exactement le sinocentrisme élaboré par les sinologues auparavant, cet autocentrisme, ce sinocentrisme, il se fait quand même avec une Chine qui achète le monde. L'indifférence au reste du monde a longtemps été la réalité de la Chine. C'est-à-dire que nos philosophes, pendant très longtemps, on pense que c'est l'évolution de l'Europe, et c'est aussi l'idée de la sinologie, de penser l'évolution de l'Europe en regardant les évolutions de la Chine. Et en réalité, il n'y avait pas du tout... Enfin, ce qui est la grande différence que je vois, c'est une indifférence très forte de la Chine vis-à-vis de l'Occident pendant des siècles entiers. L'inverse n'était pas vrai. Donc, la question que vous me posez, c'est une question, en fait, d'Européens, qui est de se dire, quel est le projet que la Chine a pour nous ?
Mais oui, parce qu'on va le subir.
C'est plus notre question que la question de la Chine.
Oui, mais parce qu'on va le subir. C'est-à-dire que parce qu'on va être tributaire via l'Afrique, via la route de la soie, dont on n'a pas parlé, mais c'est-à-dire via cette importance économique et ce poids mondial que joue à la Chine, on ne peut pas être indifférent et on ne peut pas rester, nous, à notre... Du coup, on ne peut pas rester à l'écart de l'importance que prendra la Chine.
Ah non. Non, j'imagine que c'est aussi le sens de votre émission et l'intérêt que vous avez pour ces questions-là. C'est-à-dire qu'on ne peut évidemment pas être indifférent puisque c'est notre quotidien. Mais il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la Chine d'avoir un projet pour nous, c'est à nous de le bâtir. C'est-à-dire qu'en réalité, cet argument qui consiste à dire que nous ne serions pas attractifs sur le plan démocratique ou en termes de projet de société, c'est notre souci plus que le souci de la Chine. Reste, c'est à nous de bâtir un État de droit qui soit une véritable alternative à un modèle autoritaire qui fait fi des droits fondamentaux.
C'est-à-dire que je vous entends bien, la Chine veut construire la Chine, avant tout. Et elle veut fortifier un modèle qui sera un modèle qui vaudra pour cet immense pays en fonction de son histoire, de sa tradition impériale, en raison de l'importance des Han que vous venez de rappeler, et que dans le fond, ce serait ça le véritable axe de la politique chinoise, et y compris du droit chinois.
Oui, mais ce qui va avec aussi des logiques d'expansionnisme. Mais cette logique d'expansionnisme est d'abord pour un projet interne. Donc ça nous touche indirectement, et la référence à la route de la soie est évidente, c'est-à-dire que cet immense projet de la route de la soie...
Vous pouvez en dire un mot pour nos auditeurs, parce que c'est...
Alors qui consiste en fait à relier le monde depuis la Chine avec deux routes, une route terrestre et une route maritime, une route maritime qui passe par le sud et l'ouest de la Chine, et une route terrestre qui passe par l'Asie centrale.
Mais qui arrive jusqu'à Amsterdam.
Et qui arrive à Amsterdam, exactement, qui arrive à Amsterdam.
Donc qui nous concerne.
Et qui nous concerne directement. Exactement, et qui en fait c'est un vaste projet qui lie à la fois du soft power, c'est-à-dire quel est le modèle chinois aujourd'hui, mais aussi des immenses investissements. Et également des problématiques communes multilatérales pour affronter les questions environnementales. Donc ce projet de la route de la soie va ramener la Chine vers nous, et très certainement dans les interactions qui vont avoir lieu de contestation en fait de l'établissement de cette route de la soie, tout ceci va faire que la question de pourquoi cette route de la soie et quel est le projet de la Chine pour le monde va devoir se poser, et il faut le poser à la Chine.
Alors, Stéphanie Balm, on arrive à la fin de cette émission et on est bien sûr un peu inquiet pour l'avenir, notre avenir, on vient d'en parler, pour l'avenir de la Chine aussi. Vous connaissez bien ce pays, vous y avez vécu longtemps. Comment voyez-vous l'évolution, cette tension entre notamment à propos du droit, des tensions sociales dont vous nous parliez, à un moment où la Chine ralentit un peu son économie, recentre son économie, où manifestement la Chine a passé un cap majeur au cours de ces dernières années, depuis le début du XXIe siècle.
Les contradictions sociales, politiques, économiques ne vont aller que de façon croissante. Donc ces contradictions fondamentales, pour pouvoir les régler, il faudra très certainement beaucoup d'intelligence politique. Et il n'est pas sûr que l'autoritarisme politique croissant, qui est celui que l'on constate, soit la bonne solution pour calmer les esprits. Tout au contraire.
C'est-à-dire que vous pensez qu'on va vers
une radicalisation de la situation, quelle qu'elle soit, et aussi une radicalisation des relations avec l'Occident et la mer de Chine du Sud. Donc, pour affronter...
C'est la mer de Chine du Sud qui risque d'un conflit ouvert avec ses voisins et peut-être même avec les États-Unis.
Oui, risque, enfin oui, potentiel. En tout cas, il y a des est-ce que l'affrontement aura lieu? Ça, c'est très difficile. Je pense que les forces s'annulent d'une certaine manière, mais effectivement, c'est une source de tension extrêmement vive. En tout cas, comprendre ce pays, ne pas avoir uniquement une logique bilatérale, de relation bilatérale avec lui, mais effectivement engager la Chine dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire faire qu'elle pense aux affaires du monde et penser avec elle les affaires du monde pour qu'elle soit partie prenante d'une discussion collective plutôt que de l'isoler malgré la difficulté du système politique tel qu'il est. C'est notre quotidien, il faut s'y atteler sans oublier comment construire nos propres sociétés.
Eh bien, comprendre cet immense pays, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir, Stéphanie Balm. Merci beaucoup.
Merci Antoine Garapon.
Les discussions du soir, Stéphanie Balm, Dimitris Capelan, Corinne Amard. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.